vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc, manquez pas ça, Les Architectes du son.
Le temps d'un gin tonic, c'est le moment parfait pour décompresser avant le week-end. Les vendredis de 14h à 15h, joins-toi à Rosalie et ses invités pour un moment de détente. Des invités dynamiques, des discussions stimulantes, des gin tonics et ben du fun. Voici ce qu'on te promet pendant une heure à toutes les semaines. Le temps d'un gin tonic, tu veux pas manquer ça.
La tournée 95 s'arrête au Centre Vidéotron le 27 avril prochain. Les billets sont en vente maintenant sur Ticketmaster.ca. Angèle au Centre Vidéotron le 27 avril, une présentation de Gestev. Le nouvel album 95, en vente partout.
100% sport, 100% passion. Chaque mardi, Boisvert Radio vous éclairera sur les actualités sportives à la une des journaux, du niveau local jusqu'à l'international. De plus, l'émission accueillera des invités de marque qui viendront partager leurs histoires et leurs anecdotes. Donc rendez-vous tous les mardis de 21h à 22h sur les ondes de Chiz 94.3.
Bonjour, bienvenue à une autre édition de Conduite Antisportive. Mon nom est Shannon Duff, de retour avec vous le mardi pour vous parler du monde du sport, plus principalement du football qui s'est passé cette semaine. Premièrement, c'est sûr que je peux pas ne pas parler du match du Rouge et Or contre les Carabins qu'il y a eu en fin de semaine, la Coupe Dunsmore qui enfin retourne à Québec après quelques années. C'était tout qu'un match, bien sûr, que la première demi du côté du Rouge et Or était pas à quoi on s'attendait de ce qu'ils ont montré récemment, surtout de la part du carrière. Mais quand tu as un receveur étoile comme ça, à un moment donné, c'est sûr que ça va débloquer, puis tu vas être capable de faire des belles choses comme on a pu voir avec les trois touchés de Kevin Mittal en fin de semaine. C'est sûr aussi que Montréal a donné toute une bataille. C'était sûr qu'à Coupe Dunsmore, quand il y a des joueurs que c'est peut-être leur dernière game à vie, en fait, ils vont tout donner pour gagner la partie. Et puis, c'était sûr qu'il allait avoir un bon bataille malgré l'autre match d'avant que Laval avait complètement dominé. Mais c'était bien le fun à regarder. Malheureusement, j'ai pas pu me présenter en présence puisque la température me l'empêchait, mais j'ai bien regardé ça à la télé. C'était bien plaisant. C'est sûr que la fin, même si je suis content que le Rouge et Or ait gagné, ça laisse à désirer. J'ai déjà parlé de mon mécontentement des règles du football canadien, mais bon, on va prendre une victoire comme ça quand on peut. C'est sûr aussi que le retour du receveur étoile des Carabins, Hassan Dosso, a fait du bien à leur équipe. Puis c'était vraiment un super bon match. D'habitude, ça finit souvent des scores plus 17-14 ou des matchs très défensifs quand les deux équipes s'affrontent, surtout en Coupe Dunsmore avec la température. Mais là, il y a eu beaucoup de points, il y a eu des revirements et tout. Donc, c'était plein d'action et c'était très bien. C'est sûr que belle saison pour Montréal, mais Laval monte, a pu persévérer et gagner sur un rouge, comme on dit, même si le placement a été manqué à la fin de la game. Montréal n'a pas pu sortir de sa zone début, ce qui fait que Laval a pu s'en sortir avec une victoire. C'est sûr que tout le monde va dire il aurait dû botter, lui qui a reçu le ballon de Montréal dans la zone début, mais c'est pas tant évident que ça. Et puis il manquait pas grand chose. Un joueur du Rouge et Or a fait tout un jeu. Il est rentré directement dans le bloqueur et puis il a plaqué le retourneur tout en tout en ayant le bloqueur devant lui. Donc, c'était tout qu'une fin match, tout qu'un match au complet, en fait. Puis, c'est ça qu'on veut, en fait. C'est pour ça que le Rouge et Or et la rivalité Montréal-Rouge et Or est tout le temps, est toujours aussi grande, puisque les matchs sont tout le temps divertissants. Et puis, ça fait du bien de voir ça. C'est sûr que là, le Rouge et Or a un super gros défi à faire face, d'aller en Ontario jouer où eux, ils neigent complètement, en fait. Nous, on est encore sauvés de ça ici au Québec, mais là, ils vont aller en Ontario jouer contre Western, qui a pratiquement pas perdu dans les deux dernières années et qui sont défendants champions de la Coupe Vanier. Ce qui fait que ça va être tout qu'un défi, surtout que c'est une équipe pas comme Montréal qu'on affronte pas souvent. C'est sûr que c'est ça des deux côtés, mais ça va être tout qu'un match à regarder. C'est sûr qu'ils n'auront pas l'avantage du stade TELUS comme ils l'ont d'habitude. Mais là, c'est quand même différent, le football en Ontario et ici. Donc, on peut espérer que le Rouge et Or continue sur sa belle lancée et qu'il gagne la Coupe Mitchell et puisse aller jouer pour la Coupe Vanier, puisqu'ils sont reconnus pour ça. Et puis, ils ont vraiment une bonne équipe cette année. Et puis, ça serait bien qu'ils aillent en chercher une autre, surtout avec des joueurs et des entraîneurs de Laval qui battent des records cette année. Ça finirait bien la saison. Puis, on leur souhaite le plus de succès possible. Puis, je ne connais pas assez Western pour analyser tout ça. Je sais juste qu'ils ont une excellente attaque par la course et puis qu'ils perdent pratiquement pas. Donc, je pourrais pas plus analyser le match, mais les deux ont des bonnes équipes rendues là, puis espérons que ça soit fructueux pour Laval. Maintenant, si je change vers la NFL, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. C'est sûr que je peux parler un peu de la game de hier, qui malheureusement, mon équipe a perdu sa première partie de l'année contre les Commanders, qui me fait beaucoup de peine et de rage en dedans de moi. Mais bon, je pourrais être humble et dire que ça me fait rien, mais en fait, c'était vraiment pas fameux. Puis il y a eu beaucoup de fluke play, comme on dit, comme le revirement du tight end Dallas Goedert, qui est blessé pour quelques semaines après ce jeu, en plus, ce qui est très dommage, puisqu'avec clairement une pénalité. Mais bon, on peut rien faire avec ça. Aussi, le gros jeu de Jalen Hurts à Watkins, que le receveur l'attrape pour 50 verges, il se relève, puis il échappe le ballon après par un plaqué de Benjamin Saint-Just. Puis que le botteur des Commanders a eu toutes ses bottées, même de longue distance. Ce qui fait que malgré que c'était pas la meilleure performance, il y a des intangibles comme ça qui arrivent, et puis on peut rien faire. Puis on peut accepter la défaite. C'est sûr que c'est pas idéal avec les équipes qui sont au top de la ligue, qui continuent de gagner, comme les Vikings et les Chiefs. Surtout que maintenant, il y a seulement juste un spot de wildcard, ben pas de bye, en fait, quand on arrive en playoffs. Alors seulement la meilleure équipe par division peut avoir une semaine de congé en série. Ce qui fait que là, les Eagles sont encore égales aux Vikings, qui ont déjà battu. Mais il va falloir qu'ils se réveillent, puisqu'on parlait souvent de la saison parfaite, qui était très réalisable de leur côté, puisque la cédule des Eagles est quand même assez facile. Et puis là, avec cette défaite-là, il y a beaucoup de questions qui se posent, mais la semaine prochaine, on va jouer contre les Colts, donc on va revenir sur la bonne route, en fait, j'espère. Sinon, là, il va vraiment avoir des questions à se poser. Mais c'est sûr que ça a fait mal à l'ego après ce super début de saison qu'on avait. Parlant des Vikings, ils ont joué toute une game contre les Bills, qui est une autre équipe qui a une très bonne équipe et qui espère pouvoir gagner un Super Bowl bientôt, surtout avec le personnel qu'ils ont. Et puis, ils ont joué toute une game aussi, avec beaucoup d'événements, surtout au quatrième quart, arriver à la ligne de une, faire un fumble, se faire driver 99 verges après l'autre équipe avance, et tout, des trucs comme ça, là. Puis en prolongation, Josh Allen, il lance juste une niaiserie, puis ça te fait perdre une game. C'était vraiment incroyable, mais là, on voit que ça fait deux parties que Josh Allen lance des niaiseries, et puis on peut voir que que si lui ne joue pas bien, ça va quand même assez mal pour les Bills. Donc, bien que c'est un joueur très excellent, il y a beaucoup de pression sur ses épaules, comme tous les carrières dans la ligue. Mais lui, avec tout l'arsenal qu'il a comme joueur, ça fait que quand il n'est pas à son 110% et qu'il fait des erreurs, comme tout humain, ça peut lui coûter des parties comme ça l'a fait. Ce qui fait que les Dolphins, eux, qui continuent à jouer contre des équipes plus faciles, ça fait qu'ils sont rendus premiers de la division. Et puis, deux autres équipes, dont les Bills et les Jets, qui sont à 6-3, qui sont dans un wild card spot, qui pourraient jouer un rôle important à arriver dans les séries. C'est sûr que en étant dans la même division, ils vont devoir se battre entre eux. Mais là, avec ce que ça a de l'air, personne n'a le numéro de personne, ce qui fait qu'il y a beaucoup de parité et puis que cette défaite-là des Bills crève-cœur, en fait, pourrait beaucoup jouer sur leur saison, en fait, plus qu'on pense. Puis, mais c'est sûr qu'ils ont quand même montré des belles choses et tout, puis que Justin Jefferson a fait un des plus beaux catchs que j'ai jamais vu de ma vie en fin de match, mais c'est des choses qui arrivent. Et puis une défaite, c'est une défaite dans la NFL avec le faible nombre de matchs qu'il a. Ça doit leur faire beaucoup mal, surtout après avoir une médiocre performance contre les Jets la semaine passée. Ensuite, le sujet de l'heure dans la NFL cette semaine, bien sûr, c'est le retour de Deshaun Watson qui a été accusé de plusieurs choses dans la dernière année et puis qui n'avait pas joué non plus avec les Texans puisque ça, il était blessé et puis ça ne lui tentait pas. Et puis là, il peut enfin retourner pour pratiquer cette semaine, ce qui est quand même assez bon pour les Browns. C'est sûr que c'est pas le meilleur look pour l'organisation de l'avoir signé, d'avoir échangé pour lui avec tout ce qui s'est passé, mais là, il est là et puis il attend vraiment avec ce qu'il peut faire. Puis les Browns sont pas encore, même si ça va pas super bien, sont pas encore morts, comme je dirais. Donc, et puis si Deshaun Watson est là, Deshaun Watson qui était avant, ça va faire que peut-être qu'ils vont pouvoir se faufiler une place dans les séries, mais il y a beaucoup de questions à se poser. Et puis avec toute la controverse, est-ce que pas seulement les fans, mais bien les joueurs vont bien s'entendre avec lui et le personnel entraîneur aussi. C'est sûr que c'est un joueur de grand talent et puis il est capable de faire énormément de belles choses, mais là, avec tout le passé, sa pause de ne pas jouer peut le nuire et peut ralentir son jeu, ce qui fait que c'est sûr que c'est une nouvelle importante à prendre compte puisque c'était un des meilleurs carrières avant, mais là, avec tout ce temps, il y a beaucoup de questions à se poser. Puis on espère qu'il va apprendre de ses erreurs et puis qu'il va pouvoir équiper l'équipe à Cleveland pour que ça soit qu'il y ait un peu plus de parité dans cette division-là. Ensuite, j'aimerais parler des Rams qui sont complètement en train de s'écrouler. Je pensais pas que ça allait être pire comme ça, en fait. Tout va vraiment mal pour eux et après un Super Bowl l'année passée. Et là, on peut vraiment parler du Super Bowl hangover, du fait que après avoir atteint le top, c'est comme t'as plus la même attitude, t'as plus la même énergie et tout. Ce qu'ils sont complètement en train de montrer, les Rams, c'est sûr qu'il y a des blessures qui s'enchaînent. Matthew Stafford n'a pas joué en fin de semaine. C'était le corps arrière remplaçant qui a commencé le match. Mais là, ils ont perdu, mais ils ont perdu pas à peu près contre une autre équipe qui avait beaucoup de misère et qui n'avait pas leur carrière partant, les Cardinals, dans la même division, et perdre de cette façon-là. On reconnaît plus l'équipe qui était là l'année passée. Puis Cooper Kupp qui va être blessé pour quelques semaines. Je pense que c'est une saison à oublier pour les Rams. Mais ce que je parle d'eux, puisque eux, ils peuvent pas vraiment avoir de saison à oublier comme ça, puisqu'ils n'ont pas vraiment de choix au repêchage, puisque leur mentalité, c'est de tout échanger leur choix pour avoir des joueurs justement qui sont plus établis et qu'on se base moins sur le potentiel, qu'on se base sur ce qu'ils ont fait dans la NFL, ce qui est une stratégie qui est assez rare dans tous les sports. Et puis, je crois que là, ça montre que c'est pas peut-être que sur le court terme, c'est meilleur. C'est sûr qu'ils ont eu un Super Bowl avec ça. Donc, ils sont pas perdants, c'est sûr. Mais là, dans le futur, ça regarde pas bien et tout. Puis, je pense que ça explique pourquoi personne ne fait ça, en fait, dans les ligues de sport, puisque le futur et le potentiel est toujours important. Il y a des joueurs générationnels au moins à chaque année. Donc, c'est une décision qui en a fait questionner plusieurs quand ils ont fait les échanges. Et là, ça leur revient direct dessus, en fait, les Rams, puisqu'ils sont littéralement médiocres cette année. On les reconnaît plus. Puis je pense que surtout dans la NFL, où que c'est le sport où les choix de repêchage sont les plus, je dirais, valuable. Ça veut dire qu'ils valent le plus. Donc, c'est pour ça donc que leur décision d'échanger tous ces choix de repêchage-là est très questionnable, puisque un joueur, mettons un joueur de première ronde, si je compare au hockey entre le football et le hockey, un joueur de première ronde au hockey, il rentre pas, c'est rare qu'il rentre tout de suite dans NHL. Il va passer du temps dans la ligue américaine ou même encore dans les juniors pour se développer et tout. Tandis que dans la NFL, un choix de première ronde, s'il n'est pas un partant ou du même un joueur une star, c'est un échec, en fait. Donc, eux, ils rentrent tout de suite dans la NFL, sauf quand il y a cas de blessure. Et puis, ils sont un partant. On souhaite qu'ils soient un partant et puis qu'ils puissent avoir un grand impact dans l'équipe, en fait. Donc, c'est pour ça que d'échanger des choix repêchage comme ça est toujours plus sensible dans la NFL. Et les Rams ont complètement une stratégie qui leur ont fait gagner un Super Bowl, comme j'ai dit plus tôt, mais que là, ça n'adhère pas très bien, puisqu'ils sont ils sont derniers dans leur division, et puis ils perdent des matchs, mais et puis ils n'ont pas l'air très bons de ce qu'ils montrent sur leur terrain. C'est pas comme s'ils perdaient que des matchs serrés. Des fois, ils se font complètement ramasser. Puis ça fait que le draft est un élément qui est très important, justement, dans la NFL. Plus en général, c'est un des événements que je trouve le plus plaisant, en fait, le draft, le repêchage de la NFL à chaque année. C'est sûr que c'est pas de l'action comme tous les matchs, mais moi, j'aime bien ça, regarder le draft religieusement, en fait. Puis c'est d'où l'importance d'avoir un futur et des choix en banque à chaque année, même si ça va bien. Comme on peut voir les Eagles, qui est mon équipe cette année, le choix en banque des Saints, qui ont une saison assez médiocre, ce qui fait que même si on finit, si on continue comme ça et on finit premier de la ligue, on s'enligne pour avoir le quatrième choix au repêchage, ce qui fait que pas juste cette année, mais pour le futur, nous sommes bien partis. Les décisions sont aussi plus faciles à prendre pour l'organisation. C'est sûr qu'on veut gagner au moment présent en tant que fan, mais là, ça donne de l'espoir, et puis ça me remonte un peu le moral après une défaite contre les Commanders hier. En plus, c'était une game de division, donc j'en suis assez abasourdi encore aujourd'hui, surtout quand ça fait presque un an qu'ils n'ont pas perdu mes goals. Donc ça m'a fait un choc. Aussi, une autre surprise de la semaine, les Packers se sont enfin remis sur le bon chemin. En fait, ils ont gagné pour une fois depuis quelques semaines. Et puis, contre les Cowboys en plus, donc ça allège toute ma rage que j'ai cette semaine, puisque les Cowboys, comme j'ai dit dans d'autres émissions et dans le passé, c'est quasiment plus fun de les voir perdre que de voir mon équipe gagner. Et puis, de la façon qu'ils ont perdu contre une équipe comme les Packers, qui avaient beaucoup de difficultés ces temps-ci, ça a fait vraiment du bien à regarder. Puis on peut voir aussi que pas toutes les équipes sont parfaites, puis que quand il va être temps des séries, ça va être tout que des matchs, peu importe qui va jouer contre qui. Aussi, c'est sûr que Aaron Rodgers est revenu en forme, et puis surtout avec l'aide d'un de ses receveurs recrues, Christian Watson, qui a eu 3 touchés cette semaine. Donc, on attendait justement qu'un receveur de Green Bay, justement, qui puisse sortir une surprise comme ça et puis montrer qui peut être un outil pour aider Aaron Rodgers. Je pense qu'il leur ça prouve juste qu'il en faut pas beaucoup pour que cette équipe-là remonte la pente. C'est sûr que les Vikings, c'est toute une équipe cette année et tout. Mais les Packers, c'est tout le temps une équipe que tu dois faire attention, en fait, malgré leur record et tout, puisque comme les Buccaneers, c'est deux équipes que j'ai doutées en faisant ma liste la semaine passée. Et puis là, je suis encore en train de re-questionner mes décisions, puisque faut jamais douter des corps comme Tom Brady et puis Aaron Rodgers, puisque c'est vraiment eux, par eux-mêmes, en fait, avec seulement un peu d'aide qui peuvent tourner complètement la saison d'un bout à l'autre. Donc, et puis, c'est les joueurs les plus dangereux en série. Et les séries, parlant de ça, les séries, c'est pas qui a le meilleur. C'est sûr qu'il y a des maths que celui qui a le meilleur record il va être le favori et tout, mais au football, le problème, c'est qui finit mieux la saison, en fait. Tant que tu fais les playoffs, là, c'est vraiment qui a mieux fini la saison va être le plus dangereux. D'où pourquoi une défaite comme ça pour les Eagles, par exemple, ça peut comme les réveiller et puis rechercher une identité peut-être qu'ils n'avaient pas avec les victoires assez faciles contre des équipes assez moches dans les dernières semaines. Ce qui fait que là, on s'en va justement dans la deuxième moitié de la saison et c'est là qu'on voit qui va être vraiment favori et qui va sortir de l'ordinaire pour les séries. C'est sûr qu'avec la mi-saison, ça joue beaucoup sur les équipes, sur la façon de jouer et tout, mais c'est vraiment là que c'est là aussi qu'il y a plus de blessés. C'est sûr que dans la NFL, il y a énormément de blessés. C'est un sport de contact et puis la saison est quand même longue. Il y a eu beaucoup de changer de 16 à 17 games. Il y a eu beaucoup de plaintes, mais d'opposition, en fait, du côté de l'association des joueurs, puisque en tant que fan, on dit « Ah, c'est juste 17 games une fois par semaine », mais si t'as moindrement joué un peu au football, c'est vraiment pas évident de se faire plaquer comme ça à chaque semaine, puis d'avoir... D'avoir une partie de plus comme ça, ça en tue pas mal, en fait, des joueurs. Donc, d'où pourquoi ils se sont opposés, mais c'est comme on sait, la Ligue nationale de football, c'est une business. Et puis, tant qu'ils puissent faire des décisions qui vont aider leur business, c'est sûr qu'ils vont la prendre. Donc, parlant de business, il va falloir qu'ils soient un peu plus prudents l'année prochaine quand ils vont faire leur match-up de Thursday Night Football, de les matchs du jeudi, puisque c'est vraiment pathétique, je dirais. Falcons contre Panthers, c'est incroyable comme match-up. Je sais pas à quoi ils pensent dans ce temps-là. Tu sais, c'était un match de division, mais personne pensait... Même en début d'année, je pensais que le match allait être pire qu'il était cette semaine, mais même là, c'était vraiment... Il y a eu des points au moins, mais il faut faire quelque chose, parce qu'ils doivent battre des records pour le moins de personnes qui l'écoutent. En plus, ils changent de plateforme. C'est Amazon maintenant qui s'occupe de ça. Donc, je crois qu'il va y avoir une discussion au niveau business l'année prochaine pour ça. Au moins, cette semaine, on a les Titans contre les Packers qui pourraient être un bon match. Les Titans, malgré qu'ils sont... qui ont meilleur record et tout cette année. Je crois que c'est pas gagné pour eux avec la victoire des Packers la semaine passée. Derrick Henry est redevenu une légende. Pas la semaine passée, il y a eu beaucoup de misère, d'où pourquoi les Titans ont beaucoup de misère contre les Broncos, qui sont absolument mauvais. Mais Je pense que c'est la seule équipe où c'est pas le corps arrière qui change complètement la partie. C'est une des rares fois de toute mon histoire, en fait, que je vois un porteur de ballon qui a autant de charge sur ses épaules, mais qui a autant de succès, en fait, et qui a autant d'impact pour une équipe, puisque moi, dans les deux dernières, trois dernières années, dans mes analyses du football, j'ai toujours trouvé que la position de porteur de ballon était la position, je dirais pas négligée, mais que dès que tu pouvais faire la job, tu pouvais avoir un impact et faire la différence sans toutefois devoir être vraiment meilleur que les autres. Puis ce qui explique, si je reviens sur le repêchage, pourquoi il n'y a pas beaucoup de porteurs de ballon qui sont pris en première ronde encore de nos jours, puisqu'il faut vraiment que tu sois extrêmement spécial pour avoir un impact, puisque n'importe qui, mais rendu à ce calibre-là, tout le monde est capable de prendre un ballon et de courir et amasser des verges s'ils comprennent le playbook et qu'ils ont la bonne ligne. Donc, faut vraiment avoir un talent spécial. Et aussi, comme on peut voir avec Derrick Henry, pas juste le talent, c'est son size aussi qui est incroyable, en fait. Donc, c'est sûr, c'est des ligues professionnelles aux États-Unis, puis à télé, ils ont l'air des petits bonhommes, mais ces gens-là, c'est des géants, en fait. Derrick Henry, il est 6'3", 2'40", je crois, ou quelque chose dans le genre. Ce qui fait que quand il arrive à sa vitesse maximale, c'est comme un train, puis ça fait que tu y mets une bonne ligne offensive, comme les Titans font, et tu peux lui donner le ballon, puis c'est à lui de faire le boulot, puis ça change vraiment tout, comment ils jouent. C'est sûr qu'il y en a qui peuvent trouver ça un peu plus plate, là, puisque il y a moins d'action, il y a moins de points et tout. Mais là, c'est quand même impressionnant à voir. Puis, faut donner crédit aussi à la défense des Titans qui, eux, leur travail ne devient plus le même, en fait, quand tu joues un style comme ça où tu cours énormément le ballon. C'est vraiment eux, leur but, c'est vraiment d'empêcher de garder l'autre attaque le moins longtemps sur le terrain. En fait, c'est ça pour toutes les équipes, en fait. Mais eux, c'est vraiment spécialement ça. C'est de au moins ne pas settle, comme j'aime dire, pour des touchdowns. Faut que ça soit... Ça peut être long, mais il faut que ça soit des 3 points, puisqu'ils vont contrôler... ils vont contrôler l'horloge en attaque, et puis ils vont... S'ils le peuvent, ils vont courir. À un moment donné, là, l'autre équipe va vouloir blitzer, justement, pour arrêter ça. Ce qui va faire que tu fais un petit play action. Et puis, c'est pratiquement ça, le playbook des Titans, si on regarde leur game. Et puis, c'est une recette gagnante dans les trois dernières années pour eux. Donc, d'où l'importance d'avoir un porteur de ballon élite comme ça. Mais c'est quand même des raretés. Là, c'est quand même des gems à trouver, là, des joueurs comme ça. Puis c'est juste vraiment impressionnant d'avoir un style de jeu comme ça comparé aux autres, ce qui fait que malgré leur personnel et leur carrière qui peut en faire questionner plusieurs, les Titans, ça fait que c'est toute qu'une équipe à regarder qui peut être extrêmement dangereuse dans les séries. Cela dit, j'ai encore plusieurs choses à dire, mais on va faire une petite pause publicitaire et puis avec un peu de musique, puis je vous reviens avec tout ça après.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
Balle frappée solidement par White du côté gauche. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
The following program is disturbing.
Cash Crowd.
Mardi 20h.
Chiz 94.3.
D'écoute!
Vous écoutez maintenant LSDJ7, présenté par Lex. Ex explorons ensemble la musique électronique dans un DJ set d'une heure en continu. Retrouvons-nous tous les derniers dimanches du mois sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Tu dévores les journaux? Tu te régales de politique? Tu salives lorsqu'on parle d'actualité? Les Affamés, c'est l'émission pour toi. L'actualité décortiquée de façon simple, intéressante et surtout appétissante. On s'attaque aux dossiers les plus complexes dans l'actualité pour t'aider à y voir plus clair. Tout ça dans la bonne humeur. Les Affamés, c'est ta source d'information et divertissement par excellence de midi à 13h sur les ondes de Chiz 94.3.
Jexcel.com recrute des centaines de tutrices et tuteurs pour soutenir tous les élèves dans leur parcours académique. Depuis 2014, Jexcel.com est un service de tutorat et accompagne des milliers de jeunes du primaire et du secondaire. L'aide aux devoirs Jexcel.com, c'est un emploi très stimulant, valorisant et gratifiant, avec un horaire flexible et stable et un salaire compétitif. Que ce soit en personne ou en ligne, joins-toi à l'équipe de tuteurs et tutrices de Jexcel.com. Postule dès maintenant au jexcelle.com.
We'll be right back. Alors ils ont séché les cours. Maintenant dis-moi qui va passer les ponts. J'trouve de violence dans les gestes et les mots. J'essaie d'élever la voix mais le monde est sourd. J'ai moi-même tissé ma toile pour eux trop c'est trop. J'fais pas juste ça le vendredi soir, j'fais ça tous les jours. On a grandi dans la rue, grandi sous les coups. Ils ont fermé les volets pour peser de la dope. Papa est parti chercher l'argent pour revenir à l'aube. Vas-y je te donne un conseil, ne touche pas la drogue. Ne consomme pas ton produit, ne fais pas confiance à l'homme. J'ai quitté la rue et j'ai mis mes cartes sur la table. J'ai vécu, j'ai survécu et j'ai raconté ma life. Ils m'ont dit qu'est-ce que t'écris là, qu'est-ce que toi t'es malade. T'es sur une autre planète, trop t'es sur le décalage. Brûler les ponts par le debout. On est mieux rêver réveillé que dormir debout. J'avais mauvaise mine mais t'as quand même pris des photos. Hier j'étais dans la street, demain je fuis dès que j'y n'ai trop long. Ils ont brûlé les bras.
Bonjour à Conduite Antisportive à Chiz 94.3. C'était Rain Passing Through de Space Face, suivi de Brûler les ponts par Farfadet. Quelle coïncidence que le mot Farfadet revienne, soit de retour dans mon champ d'horizon avec, avec ce mot très populaire dans l'actualité de nos jours. Bref, retournons vers le sport. J'aimerais parler de quelque chose qui me touche, en fait. Moi, en tant qu'étudiant qui souhaite devenir un analyste sportif plus tard, c'est sûr que je me familiarise avec la profession de journaliste. Et puis, en faisant mes recherches et tout, je me rends compte que il y a beaucoup de journalistes ou analystes sportifs, en fait, qui sont des anciens athlètes et puis qui n'ont pas, justement, le background que j'aurais. Et puis, ça me fait questionner, est-ce que, vu que ce sont des athlètes, est-ce qu'ils sont automatiquement, en fait, des bons journalistes? Puisqu'il y en a, en fait, que tu vois, et puis qu'ils ne savent pas du tout, ils savent pas du tout parler. Et puis, bien qu'ils ont joué, justement, le sport dans leur passé, on leur donne directement, en fait, le crédit, en fait, qu'ils ne méritent peut-être pas. Ce qui fait que je me demande s'il y a juste moi, en fait, qui pense ça, puisque des... Genre, j'ai de la misère justement à regarder le football à certains postes puisque je suis très critique envers certains certains journalistes, du moins des anciens athlètes. C'est sûr, le premier facteur, moi, qui me touche le plus, c'est que c'est il n'y a pas de neutralité. C'est sûr que moi non plus, j'en ai pas en ce moment dans ce contexte de radio-là, mais si j'étais dans une position un peu plus haute à la télé devant des millions de spectateurs, c'est sûr que je serais capable de mettre mon fandom, je dirais, des Eagles sur le côté et puis d'être beaucoup plus neutre, qui est une des compétences qui est super importante dans tout journaliste. Ce qui fait que les analyses deviennent toujours... C'est sûr que tu peux que chacun va avoir son parti pris un peu et puis que tu peux avoir un parti pris, du moins, mettons que tu choisis... qui font des pick'em, en fait. Ça veut dire qu'ils choisissent quelle équipe va gagner et tout. C'est sûr que ça, il y a pas de mal à faire ça. Mais là, quand ça devient que toute l'analyse, que ton équipe préférée devient la meilleure équipe du monde à chaque fois, je trouve que ça enlève beaucoup de crédibilité qu'on ne fait pas du côté des fans, puisque vu qu'ils ont joué, c'est comme si eux savaient tout et nous qui regardent, on ne sait rien. Donc, ça me fait souvent bouiller quand je regarde des émissions. Puis aussi qu'il y a aussi tout ce qui est niveau langage et tout. C'est pas pour tout le monde. Il y en a qui sont très bons aussi, mais il y en a que juste à les écouter parler, c'est pas du monde qui ont étudié pour avoir un champ lexical et avoir une bonne communication. Ce qui fait que tu les écoutes parler, puis les analyses, en fait, font aucun sens, puisque bien que faut creuser loin, en fait, pour voir les idées. Les idées ne sont pas supportées de statistiques et tout. C'est souvent, ça te gruge dans la tête, en fait. Tu essaies de comprendre, en fait, ce qu'ils sont en train de te dire, puisque il y a beaucoup d'anciens joueurs qui font juste tourner autour de la table dans leur réponse, ce qui est correct, parce que c'est souvent ça qu'ils font, justement, en fait, dans les interviews et toutes les conférences de presse à la fin des matchs. C'est rare que tu donnes une bonne une réponse précise avec toutes les émotions que tu vis et tout. Fait que tout ce qu'ils font, c'est qu'ils répondent en tournant autour de la table, en donnant crédit à tout le monde, en faisant bien paraître. Donc, quand tu arrives à analyser et d'avoir un esprit critique, c'est comme si les anciens joueurs ne sont pas capables de l'avoir. Ils ne font que... ils n'ont pas d'analyse, en fait, puisqu'ils sont pas capables d'être critiques, justement. Donc, ils font juste essayer de montrer des stats, après de dire qu'ils ont vu tel joueur jouer, puis qu'avant, avec l'expérience qu'ils ont vécue, ça se transmet. En tout cas, c'est un point, en fait, qui me tourmente pour mon futur et tout. Et puis, je voulais vous en parler. Puis, c'est sûr que moi, je suis plus familier avec le football, mais des fois, quand je regarde le basketball et le hockey aussi, des fois, je soupire et puis je suis abasourdi par ce manque de critique de ce genre d'anciens joueurs qui deviennent journalistes juste pour la notoriété. Mais encore une fois, je comprends le côté business des compagnies qui engagent ces personnes-là. Le but, c'est d'avoir le plus de monde qui regarde. Et puis, c'est sûr que c'est une face bien connue, peu importe ce qui va sortir de sa bouche, mais ça t'amène des codes d'écoute, mais pourquoi pas. Donc, si je reviens sur la NFL, je pense que j'ai fait le tour de ce qui était important la semaine passée. J'aimerais parler un peu de Justin Fields. Justin Fields, corps arrière des Bears de Chicago, qui est une équipe depuis quelques années qui avait une attaque assez, assez lente, redondante, plate. Et puis là, ils ont tout changé. Ils ont changé le personnel, l'entraîneur et tout. Puis ça a mal commencé. C'était toujours en talent, mais là, dans les dernières semaines, Justin Fields est devenu incroyable. En fait, c'est sûr qu'il y a encore des erreurs comme son pick six qu'il a lancé la semaine passée. Mais c'est incroyable le regard des joueurs. Puis c'est tout qu'un plaisir. Des courses comme ça, des longues courses par un corps arrière. Et puis ça change toute l'allure du match, des gros jeux dans la NFL. Et puis c'est ça qui fait. Puis ça rend que les Bears sont quasiment plaisants à regarder. C'est sûr qu'ils ont perdu contre les Lions la semaine passée. Mais Justin Fields a fait des niaiseries, mais après il fait des gros jeux. Tu peux pas demander mieux en tant que en tant que fan général, je dirais, de la NFL, quand c'est pas ton équipe, quand c'est ton équipe, c'est sûr que tu vas bouiller en dedans, mais là, quand c'est pas ton équipe, de voir ça, c'est super, là, c'est tout plein d'action. En plus, la façon qu'ils perdent, Justin Field fait une super longue course pour un touchdown. Il manque le converti, puis après, les Lions vont faire un toucher en fin de partie, ils ont le converti, ils gagnent comme ça. Donc, rien de mieux, rien de plus excitant. C'est sûr que c'est plate pour lui, qui donne tout ce qu'il peut, en fait, pour une saison qui est bientôt perdue pour cette équipe-là. Mais c'est vraiment le fun à regarder. Puis je donne tout mon crédit. Il a à peu près mon âge et puis il fait ça. Donc, wow à lui. Ensuite, ouais, ça fait pas mal le tour pour... en fait, il y a aussi eu une partie en Allemagne des Seahawks contre Buccaneers. Buccaneers qui reprennent un peu, qui reviennent un peu dans le bateau d'avant, que je doutais pas plus loin que la semaine passée. Mais il y a encore des choses à questionner, cette équipe-là. Beaucoup de blessés aussi. C'est sûr que Tom Brady, il revient un peu à la normale, je dirais, pour lui. Mais c'est ça. Puis lui... comme j'ai vu une analyse il n'y a pas longtemps, en fait, tantôt, de Nick Wright, qui dit que peu importe comment les Buccaneers finissent, ils peuvent finir 8-9 et avoir une place dans les séries. Dès que Tom Brady est dans les séries, il va être le favori, peu importe l'équipe qu'il y a. Et puis, est-ce qu'on peut vraiment contredire cette opinion-là? Pas pour le moment. Et on peut pas vraiment... dire le contraire, parce qu'il a tout le temps fait ça. Et puis, dans les playoffs, t'as qu'à gagner 3-4 games pour gagner un Super Bowl. Donc, je vois pas pourquoi Tom Brady ne le referait pas cette année. Pour ce qui est des parties qui s'en viennent, j'aimerais dire que les Jets jouent contre les Patriots encore. Et je crois que même si les Jets sont une bonne série... Et c'est sûr qu'ils viennent d'une semaine de congé et puis qu'ils viennent de battre les Bills. Mais en jouant contre les Patriots, je confirme encore et je reste sur ma thèse que les Jets ne peuvent pas battre les Patriots. Les Jets ne peuvent pas battre les Patriots. Et puis, s'il y a de l'argent à mettre, cette game-là, on met sur les Patriots. Aucune chance que les Jets gagnent. Ce qui va faire qu'il va y avoir... Les Jets vont être à 6-4 et les Patriots vont être à 6-4. Bills vont être à 6-3 6-3. En tout cas, toutes les équipes vont être pas mal égales, d'après moi. Et puis, tout dépendant de... Les Bills, je sais pas, en fait, la semaine passée. C'est ça, ils vont être 6-3. Ils vont être... c'est ça. Toutes les équipes... Ce que je veux dire, c'est qu'avec ce game-là, que les Patriots vont gagner, ça va faire que tout va rendre cette division-là quasiment égale, ce qui va faire que toutes les games de division jusqu'à la fin de l'année de celle-ci, donc Bills, Patriots, Dolphins, Jets, va être super excitante à regarder. Puis ça va faire de l'excellent football de fin de saison. Aussi, Il n'y a pas de super match-up la semaine prochaine. En fait, je regarde ça de même. Puis, il n'y a pas de game super importante. Je pense qu'on est capable de voir qui c'est qui, avec ce qu'on a vu, qui va gagner et tout. Puis, il y a tout le temps des surprises dans NFL. C'est pour ça que c'est un sport qui est tellement le fun. C'est qu'il y a tout le temps des surprises. N'importe quelle équipe peut gagner, comme les Commanders hier contre les Eagles avec Tyler Haneke. Puis ça va être ça jusqu'à la fin des temps, à moins qu'il y ait des gros changements. Puis c'est ça, ça va être c'est toujours le fun pour ça, peu importe c'est quoi les match-ups. On peut chialer sur les match-ups du jeudi, comme j'ai parlé tantôt, puisque on dirait qu'ils ont fait exprès pour avoir les match-ups avec le moins le fun possible. Mais je pense que c'est juste une coïncidence et puis ils vont se reprendre l'année prochaine, puisque ça concorde pas avec l'aspect business de Roger Goodell et de la NFL. Il reste une petite dizaine de minutes. J'aimerais parler de les arbitres en général dans le sport. Est-ce que si on chiale envers les arbitres, ça montre ça va vraiment changer quelque chose? Est-ce qu'il y a vraiment une option pour améliorer, mettons, si on est insatisfait, le sort des arbitres? Je ne sais pas si vous avez vu récemment, il y a eu un incident où un spectateur a frappé un arbitre et tout, puis ça a fait le tour au Québec, ce qui est une situation complètement inacceptable, je veux dire, oh boy. Et puis, ça prouve que il y a tout le temps du mécontentement envers les arbitres. C'est devenu quasiment un ennemi juré de tous les sports. Mais est-ce que, en analysant et tout ce qui se passe, est-ce qu'il y a vraiment une entente commune qui pourrait arriver pour que les arbitres satisfassent tout le monde, en fait? Pour moi, c'est comme si on demandait aux joueurs, mettons, au corps arrière, au football, de ne pas lancer l'interception. C'est comme si on demandait aux joueurs de basket de pas manquer de panier, et aux joueurs de hockey de jamais, de tout le temps, à chaque tir, de tout le temps faire un but, ou si on inverse, si on parle des gardiens de but qui arrêtent toutes les shots, que ça rentre jamais. Donc, c'est comme tout le monde peut faire des erreurs. C'est sûr que l'impact semble plus, et puis c'est sûr que c'est des divertissements, puis ils sont comme un obstacle au divertissement. Mais là, s'ils n'étaient pas là, ces arbitres-là, ça serait complètement le chaos. C'est sûr, je suis pas en train de dire que tous les arbitres sont bons et tout. C'est juste que, en tant que fan fini du sport, est-ce que, à part l'émotion de rage et tout, est-ce qu'il y a vraiment raison de se fâcher après les arbitres, et du moins que ça aille, que la rage devienne tellement incontrôlable que sont rendus en danger, comme on peut voir? C'est sûr que c'est un cas qui est assez marginal ici au Québec, mais c'est sûr que avec toutes les émotions et tout le bon nombre de populations que mettons aux États-Unis ou que beaucoup de ligues professionnelles, est-ce que faudrait faire une campagne de sensibilisation des arbitres pour prouver que ça vaut peut-être pas la peine de se fâcher comme ça? C'est sûr qu'on a le droit d'avoir une frustration, et ça fait partie d'être un fan de football, mais est-ce que on transfère ou on déplace notre frustration, notre déception, notre tristesse qu'on vit à l'intérieur vers les arbitres comme mécanisme de défense, puisque ils n'ont pas vraiment le contrôle. Je pense pas qu'il y ait une perte d'authenticité, de neutralité de la part des arbitres. Puis je pense que s'ils perdent jamais ça, du moins, je vois pas comment ça pourrait être mieux. En fait, je pense qu'on est comme au pic. C'est sûr qu'il y a des formations et tout, puis il y a avec la technologie et tout, ça va les aider. Mais de là à vouloir changer drastiquement les arbitres et les règles, surtout du côté de la NFL, est-ce qu'on ne serait pas dans une place où que on perd, pas qu'on perd notre temps, mais que ça, c'est une réflexion qui n'est pas nécessaire pour tout le monde quand on regarde des parties de football? Donc, c'est sûr que c'est un mécanisme de défense, c'est un réflexe même de chialer auprès des arbitres, ce qui est correct, en fait, avec toutes les émotions et tout. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que est-ce que de là à blâmer tout le temps les arbitres, qui est quasiment une réflexion c'est une réflexion qui est très populaire dans tous les fans de sport, est-ce que ça serait pas une réflexion saine, en fait? Et moi, je crois que déjà, étant dans un environnement où je connais un peu ce que c'est d'arbitrer, je crois que si le monde était plus ouvert d'esprit envers ça, et puis regardait plus les erreurs de son équipe et tout, ça ferait beaucoup plus d'analyses et beaucoup plus de fans et de conversations plus intéressantes. Ça, c'était mon petit point envers. Mais chacun est libre de droit et faire ce qu'il veut. Puis moi, je trouve ça bien drôle quand je vois du monde chialer contre des arbitres. Donc, tant que ça ne devient pas dangereux comme ou que ça peut être une menace pour n'importe qui, comme on a pu voir récemment dans avec le spectateur qui a attaqué un arbitre après une partie. Je pense que ça reste juste, c'est juste une opinion à réfléchir. Et puis... Ça reste à chacun. Puis on espère que ça arrivera plus. En fait, il reste quelques minutes, en fait. Puis j'aimerais souhaiter bon courage aux Rouges et Or et bon succès. Ils ont l'équipe, les outils, les efforts. Je pense que le personnel entraîneur, ils ont tout ce qu'il faut, en fait, pour pouvoir gagner. Et puis... ça reste à eux de montrer ça sur le terrain, de sortir de sa zone de confort, sortir complètement de la province, aller jouer où il va probablement neiger, ou bien s'il neige pas, il va faire froid, puisque on s'en vient fin novembre, et puis on n'a pas encore eu. Fait qu'Ontario n'a eu, fait que c'est sûr qu'ils sont dus. Puis si jamais il neige pas, d'après moi... s'il pleut, je pense que c'est encore pire au niveau football. Là, ça glisse encore plus et puis la pluie va être froide. Puis... Mais ça, c'est toutes des intangibles qui sont pour les deux équipes. Et puis, ce qui me fait le plus peur, justement, que je parle de ces intangibles-là, même si je ne connais pas beaucoup les deux équipes, je sais que Western sont confortables à courir la balle toute la partie et puis avoir du succès. Donc, si les conditions météorologiques ne sont pas en faveur, avec la perte du stade TELUS. Ben, pas la perte, mais du fait de ne pas jouer au stade TELUS, jouer dans un environnement qui sont plus confortables, c'est sûr que ça peut être un risque, un obstacle qui peut être très, très dur à traverser pour une équipe comme le Rouge et Or, qui, elle, est plus versatile dans son attaque. Beaucoup de passes, beaucoup de courses, les deux. Ils font ce qui marche. Et puis Western aussi, mais Western, ils sont capables de courir, puis ça marche. Donc, aussi, dernièrement, je crois que les filles de basketball ont une partie cette semaine. Ils ont perdu contre l'UQAM la semaine passée. Je suis allé voir ça. Je suis très déçu. Mais c'était une bonne partie. Il y avait encore beaucoup de monde. Et puis, je leur souhaite encore du succès, même si la performance m'a fait pleurer des yeux à quelques reprises. C'est pas vrai, je vous niaise les filles. Je les connais très bien, puis elles sont bonnes. Puis j'espère qu'ils vont pouvoir se frayer une place en série et aller chercher une bannière aussi, ça serait bon. Hein? Pourquoi pas? Voilà, ça fait le tour pour moi pour Conduite Antisportive HS94.3 aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté, puis on se reprend la semaine prochaine. Au revoir.
Vous écoutez chez 94.3 FM à Québec.
En passant par des films marquants de films aux paroles de chansons remplies de meaning, Pop Analyse, on est une émission où on décortique des œuvres créatives et les nouvelles du monde de la pop.
On est là pour discuter et donner nos impressions sur de multiples sujets, mais surtout pour t'apprendre des fun facts sur le monde créatif qui t'entoure et que tu te couches moins niaiseux.
En passant par des scènes marquantes de films aux paroles de chansons remplies de meaning, Pop Analyse, on est une émission où on décortique des œuvres créatives et les nouvelles du monde de la pop.
La tournée 95 s'arrête au Centre Vidéotron le 27 avril prochain.
Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet.
Les billets sont en vente maintenant sur Ticketmaster.ca.
Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier.
Angèle au Centre Vidéotron le 27 avril, une présentation de Gestev. Le nouvel album 95, en vente partout.
Allô tout le monde, c'est Mathieu Dufour, fier porte-parole de l'Opération Nez Rouge. C'était impossible de faire une pub radio sans que je fasse une chanson, fait que ça part! Mario est ben gorlo, José est sur le party, Robert y voit plus clair, y'a personne qui peut chauffer. Le Carole à bénévole qui débarque en fin de soirée pour les raccompagner en toute sécurité. 1-8-6 Desjardins! Faites-moi confiance, la gang. Venez l'essayer. Opération Nez Rouge, là, vous pourrez plus vous en passer. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station.
La passe est captée par son receveur. Touché! Rouge et or!
La Coupe Mitchell, c'est ce samedi et c'est sur les ondes de Chiz 94.3. Le champion de la saison universitaire au Québec, votre Rouge et or de l'Université Laval, se frottera au puissant Mustang de l'Université Western Ontario afin d'accéder à la Coupe Vanier. Ne manquez pas l'avant-match dès 14h30 en compagnie de Pascal Loubier et Victor Marchand. Rouge et or, Mustang, ce samedi 15h sur les ondes de Chiz 94.3.
Ici Gala Dionne pour Pomme Magazine, une émission culturelle complémentaire au magazine papier de Pomme. Dans cette émission, j'aborde les nouveautés culturelles, plus particulièrement celles de la ville de Québec. Attendez-vous à beaucoup de musique émergente, des entrevues, des chroniques et